Ouvrir la parole de Dieu pour la prédication de la parole. Et je vous invite à ouvrir dans Romains chapitre 12. Nous avons regardé cela il y a 15 jours à peu près. Nous avons parlé de l'essence de la vie chrétienne. Romains chapitre 12, nous allons lire les versets 1 et 2. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Il dit : Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, nous allons prier. Seigneur, nous te demandons de nous guider dans ta parole, d'ouvrir notre intelligence afin que nous la saisissions, d'illuminer nos cœurs et de les incliner aussi afin que nous obéissions à ta parole, pour la gloire de ton nom. Amen. Le verset 1, n'est-ce pas, est l'exhortation que nous avons considérée il y a 15 jours, d'offrir son corps comme un sacrifice vivant. Et l'apôtre Paul avait dit que c'est un culte raisonnable. Il disait que la base sur laquelle on doit le faire, c'est bien sûr les compassions de Dieu. Donc c'est tout, si on veut les considérer, c'est tout ce qui a été enseigné sur la justification par la foi seule en Jésus-Christ, l'identification du chrétien dans la mort de Christ et dans sa résurrection, donc qui sont enseignés très clairement dans les 11 premiers chapitres. Et puis le verset 1, chapitre 12, dit « Je vous exhorte donc ». C'est maintenant la partie pratique de l'épître qui s'ouvre, et nous avions considéré le fait que l'apôtre Paul exhorte, l'Écriture même exhorte, nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, saint, agréable, et ce qui sera, dit l'apôtre Paul, un culte raisonnable. Mais en tant que chrétien, on pourrait se poser la question, comment puis-je offrir mon corps en sacrifice vivant? C'est vrai, je sais qu'il faut le faire, je sais que c'est toute ma vie qu'il faut offrir. Tout à l'heure, on a chanté le cantique « Comment te dire merci ?» et le frère nous a fait remarquer que, bien est écrit, « Voilà, je veux vivre pour toi. » Oui, je veux vivre pour toi. Et donc, dire merci, c'est offrir notre vie. Mais d'une manière pratique, comment est-ce que cela doit se faire? Que dois-je faire concrètement? Comment cela doit se traduire dans ma vie? Peut-être que vous avez des réponses dans votre esprit. Mais regardez la réponse de l'apôtre Paul, c'est le verset 2. Il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors on aurait pu attendre comme réponse à la question « Comment offrir son corps comme un sacrifice vivant ?» Eh bien, quelque chose comme « Commence par lire la Bible, avoir un culte personnel régulier, faire ceci ou ne pas faire cela. » Mais la réponse de Paul ici se présente sous deux aspects. Le premier, c'est l'attitude du croyant à l'égard du monde. Regardez ce qu'il dit. « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Donc, c'est l'attitude du croyant à l'égard du monde. Et puis, l'attitude du croyant à l'égard de Dieu aussi. Parce qu'il dit, « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il dit donc que le culte raisonnable qui consiste à offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, se traduit concrètement par une résistance à l'esprit du siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et puis par une soumission, on pourrait dire, à l'œuvre transformatrice de l'Évangile. Mais soyez transformés, laissez-vous transformer, dit-il, par le renouvellement de l'intelligence. Et puis ça aura comme conséquence, C'est ce que l'on voit à la fin de ce passage. Eh bien, le discernement de la volonté de Dieu, le fait d'éprouver, de tester, d'être rendu capable de connaître la volonté de Dieu. Donc, nous voulons considérer ensemble ces choses ce matin. Premièrement, la résistance à l'esprit du siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le croyant est une nouvelle création. Si un corps est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création, qui doit résister à l'esprit du siècle présent. Alors, qu'est-ce que le siècle présent ? Peut-être que vous avez le monde, ne vous conformez pas au monde, je ne sais pas dans votre traduction ici, mais le siècle présent est un terme qui désigne l'âge dans lequel on vit. Ça n'est pas, bien sûr, le monde au sens du cosmos, de la planète, etc. Mais c'est l'époque, on pourrait dire l'époque, l'esprit de l'époque dans lequel on vit. Le mot qui est traduit ici par siècle, dans son sens original, a son équivalent en latin. Et c'est ce mot latin, un mot duquel on a tiré le mot séculier. Si vous êtes habitué avec le langage français, on parle du domaine séculier, en opposition au domaine ecclésiastique, par exemple. Et donc, le terme siècle, ici, âge, c'est ce qui a donné le mot séculier. On parle de sécularisation pour dire qu'une société, un peu, se défait de tout ce qui a rapport avec la religion, ici. Et donc, ici, on pourrait dire ici que le maître mot de ce qu'on appelle le sécularisme, de ce temps présent, c'est que le temps présent, c'est tout ce qui compte. Dans ce qu'on appelle la philosophie du sécularisme, de la sécularité, ce qui compte, si vous voulez, c'est le temps présent. Seul compte ce que nous vivons aujourd'hui et maintenant. Un peu comme il est dit dans Ésaïe, déjà chapitre 22, il dit « Et voici la gaieté et de la joie. On égorge les bœufs et on tue les brebis, on mange de la viande et on boit du vin. » Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est ça le caractère du siècle séculier. Il n'y a pas d'éternité. Tout ce que l'on doit vivre, c'est aujourd'hui et maintenant. Et donc, profitons de la vie et mangeons et buvons. L'apôtre Paul, en prenant ce passage d'Ésaïe, vous vous rappelez dans 1 Corinthiens 15, il, quand il parlait de la résurrection, il disait, s'il n'y a pas de résurrection, donc s'il n'y a pas de choses qui viennent après, eh bien, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Effectivement, quand on écarte qu'il y aura un jugement, qu'il y aura une vie à venir, qu'il y aura une résurrection, eh bien, on se livre à ce genre de vie. Donc, c'est à cette vision du monde, on pourrait dire, que le croyant est appelé à ne pas se conformer. Le chrétien n'est pas appelé à vivre hors du siècle présent, ici, mais à vivre dans le siècle présent, d'une manière de telle manière à ne pas se conformer à l'esprit du siècle présent. Par exemple, Jésus, dans Jean chapitre 17, verset 15, dans sa prière, il dit à son Père, en parlant de ses disciples, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Donc il veut que nous vivions dans le monde. Nous ne pouvons pas faire autrement que de vivre dans le monde dans lequel nous sommes. Et souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul disait à Tite concernant la grâce de Dieu. Il dit, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre, de renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le présent siècle, dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Donc le chrétien doit vivre, il ne doit pas s'extraire du monde comme des ermites qui s'extraient de tout pour pouvoir vivre. Non, il doit rester dans ce monde, mais ne pas vivre selon les principes de ce monde. Donc, ce qui est entendu ici par siècle présent et cet âge, c'est vraiment tous les principes, tout ce que le monde a comme valeur, c'est ce à quoi le chrétien est appelé à ne pas se conformer. Pourquoi ? Parce que le siècle présent est profondément hostile à Dieu. Alors, je sais qu'il y a des gens qui pensent que le monde n'est pas si mauvais que ça. Dans l'esprit du monde n'est pas. La Bible affirme que l'esprit du monde est profondément, viscéralement, fondamentalement opposé et hostile à Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 19 dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de qui ? Du malin. » Le monde entier est sous la puissance du malin. Et donc, il est naïf de croire que le siècle présent est une entité neutre, que tout n'est pas vraiment dirigé par quoi que ce soit, ni vers quoi que ce soit. La Bible parle du diable en le désignant comme le dieu de ce siècle. D'accord. Qui fait quoi ? Qui aveugle les incrédules. Je vous lis le verset dans 2 Corinthiens chapitre 4 et au verset 4. Il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Dieu qui est la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et donc nous voyons là que l'activité du diable dans le siècle présent consiste à aveugler concernant l'évangile de Christ. Mais ouvrez votre Bible dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. On a lu quelques versets d'Éphésiens 2 tout à l'heure, mais là on va regarder juste ce que l'apôtre Paul dit concernant le monde ici, concernant le siècle présent. Il parle à ces chrétiens en leur rappelant ce qu'ils étaient avant de devenir des enfants de Dieu. Verset 1, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. » Et voilà comment ils marchaient, selon quel principe ils marchaient. Il dit « Vous marchiez dans vos péchés selon le train de ce monde. » Je ne sais pas si quelqu'un a une autre traduction à la place de train de ce monde, mais le mot qui est traduit ici par train, c'est exactement le même mot qui a été traduit par siècle présent dans le texte de Romains chapitre 12. Quand il dit ne vous conformez pas au siècle, à cet âge, il dit donc il marchait selon ici l'âge de ce monde, selon l'esprit, le principe de ce monde. Selon le prince, dit-il, de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voilà comment est-ce ce monde marche. Il marche selon un âge, selon un principe, et ce principe est dirigé par un prince, qu'on appelle le prince de la puissance de l'air. On comprend bien qu'il s'agit du diable ici. Et il dit qu'il agit dans l'esprit des personnes, d'accord, pour les faire rebeller contre Dieu, parce que ce sont des fils de rébellion. Donc le monde est hostile à Dieu dans sa pensée et dans ses principes. Et c'est ce que l'apôtre Paul souligne ici. C'est pour cela qu'il dit que vous ne devez pas vous conformer au monde. Parce que le monde est hostile, profondément hostile à Dieu. Deuxièmement, le siècle présent exerce une pression puissante pour conformer selon ses principes. L'exhortation que Paul donne ici quand il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent » implique que le siècle présent fait tout ce qui est en son pouvoir pour conformer, sans qu'on n'aurait pas besoin de résister. On n'a pas besoin de résister à une force qui n'existe pas. D'accord ? Mais s'il est question de résister, de ne pas se conformer, c'est qu'il y a une puissance pour conformer ici à ces principes. Il n'y a qu'à regarder autour de nous pour nous en rendre compte, chers frères et sœurs. Les principes du siècle présent sont attirants pour chacun, pour l'homme naturel. Et chacun en succombe plus ou moins. Si vous avez des enfants, quand ils commencent à rentrer, à fréquenter l'école, eh bien, ils reviennent avec « je veux ci, je veux ça, on veut être comme un tel, on veut être comme un autre, on veut avoir les mêmes choses ». Et posez-vous la question, c'est étrange, n'est-ce pas, de voir que tout le monde aime la même chose au même moment. Tout petit peu de réflexion nous permet de le voir. Tout le monde veut, alors j'écoutais une info il y a cette semaine, et puis il paraît que les lunettes de soleil, maintenant, ça, tout le monde achète les mêmes lunettes de soleil. Ça, c'est l'objet à la mode du moment. Mais j'étais pas au courant, mais bon, j'en en mets pas, c'est peut-être pour ça, mais apparemment, et tout le monde veut tel type de marque avec, voilà, c'est ça qui est à la mode. Mais comment est-ce que on arrive à ce point-là? C'est parce qu'il y a une puissance de conformité, si vous voulez, hein, qui existe dans ce monde. Et il y a tellement de possibilités et d'accès à nos pensées qu'on arrive à faire que les gens veulent tous les mêmes choses au même moment. Tout le monde veut le même téléphone, tout le monde veut le même habit, le même type de jeans, ou etc. Parce que le siècle présent exerce une pression puissante, comme un rouleau compresseur. Il y a des groupes minoritaires qui font pression pour que des lois soient votées en leur faveur. Ça, c'est une chose. Mais ce qui est encore pire, c'est qu'ils font pression pour que leur mode de vie soit accepté comme normal par tout le monde. Et ça, c'est la pression du conformisme. Et gare à vous si vous dites que ça, c'est une abomination, que l'homosexualité est une abomination. Vous pouvez être condamné. Alors on ne condamne pas des journaux qui critiquent ou qui blasphèment contre Dieu, contre Jésus-Christ, mais vous serez condamné si vous dites que la Bible condamne l'homosexualité. Et partout, d'accord, on sent cette pression pour pousser à admettre ce qui est abominable. Il y a une puissance qui pousse à conformer. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ici, ne vous conformez pas, hein, parce que le monde va pousser pour conformer le chrétien à ses critères, à ses valeurs et à tout ce qu'il élève. Pensez, chers frères et sœurs, aux choses qui vous auraient choqué il y a quelques années et qui maintenant ne vous choquent plus. Pourquoi? Parfois, on n'est plus tellement choqué par l'adultère, on n'est plus choqué par la fornication, on n'est plus choqué par le vol, par le mensonge. Oh, ça devient des choses banales. Parce que on a pris l'habitude de les regarder dans des films. Et que, chemin faisant, on s'est conformé à ce genre de choses. Et on ne réagit plus comme on aurait réagi auparavant. Le développement des technologies a offert au siècle présent la possibilité d'avoir accès à nos pensées, à nos intelligences, à nos cœurs, comme ça n'a jamais été possible. Et tous les outils, bien sûr, sont pleinement utilisés pour propager et mettre, si j'ose dire, à portée de droit la corruption. La pornographie n'a jamais été aussi accessible que maintenant. Et nous devons être conscients que le siècle présent exerce par ces moyens-là, c'est pas que les outils sont mauvais, mais c'est qu'ils servent plutôt parfaitement bien à la propagande de l'esprit du siècle présent. Et nous devons être conscients de cela. Nous devons aussi être conscients que la conformité au siècle présent est le principal obstacle à l'adoration véritable. Rappelez-vous que cette exhortation que Paul donne ici vient juste après qu'il ait dit d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et comment ça va se faire? Il dit, mais premièrement, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire que ce culte raisonnable, cette adoration, d'accord, va trouver comme premier obstacle la tentation de la conformité au monde. Et que cette conformité au monde est probablement la plus grande tentation qui atteint le chrétien aujourd'hui. Si on nous demande quel est le plus grand danger pour le chrétien, peut-être nous allons penser à un péché en particulier. Mais ici, l'apôtre Paul dit, c'est la conformité au monde. Ça, c'est le problème, la tentation la plus grande à laquelle nous sommes exposés. Parce que l'attrait du monde est très, très fort. L'apôtre Paul parlait de Démas, il dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». Et combien parfois de croyants nous connaissons qui ont abandonné par amour pour le siècle présent. On se concentre parfois sur un péché en particulier de notre vie, et puis voilà, on dit, allez, et on lutte pour pouvoir être délivré de cela, et on ne fait pas attention à notre exposition à l'esprit du monde présent. Le siècle présent force ce que l'on doit penser même de la religion. On nous dit, par exemple, la foi est une affaire privée et qui doit demeurer dans l'espace privé, sur le lieu public, le travail. Vous n'avez pas le droit de parler. Qui a dit ça? Le siècle présent. Et qu'est-ce que cela engendre chez nous comme comportement? Eh bien, nous sommes timorés quand nous sommes dans l'espace public. Nous avons du mal à parler du Seigneur, parce que on craint, et puis voilà, c'est une loi. On dit, voilà, la loi... c'est l'esprit du monde qui agit avec sa pression conformiste. On nous dit il n'y a pas de vérité absolue, donc toutes les religions se valent. Et donc quand on discute avec les gens, on dit, on présente le christianisme comme si c'était voilà, une option parmi d'autres. D'accord? Mais pas, voilà, on a affirmé que c'est la vérité absolue. Parce que le monde nous dit il n'y a pas de vérité absolue. Et on entend aux informations, et on entend ceci, et on présente des choses pour mettre sur un même pied d'égalité tout le monde. Non, toutes les religions ne se valent pas, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et l'apôtre Paul dit, résistez, ne vous conformez pas à ce genre de pensée. Parce que cela va affecter votre attitude, dans notre témoignage et dans beaucoup d'autres choses. On nous dit que la religion doit s'adapter aux mœurs de la société et aux besoins des gens. Donc il faut réarranger les cultes. Parfois dans certaines églises, donc on réarrange les cultes dans la forme et dans le fond. Et j'ai entendu quelqu'un pasteur sur internet qui disait voilà, ils ont fait un test, ils ont interrogé des gens dans la rue, et puis pour savoir, ils ont posé deux questions, je crois, hein, pour savoir, premièrement, est-ce qu'ils iraient à l'église? Ceux qui disent non, ok, c'est bon, ils les laissent tranquilles. Et puis ceux qui disent oui, eh bien, ils leur demandent quel jour ils iraient à l'église. Ils disent, oh, je sais pas, quel jour? Alors les gens disent le dimanche. Alors ils sont revenus dans leur église, et puis ils ont dit, voilà, les gens viendraient à l'église, mais ils viendraient le dimanche. Seulement quand ils viennent le dimanche à l'église, ils ne comprennent pas ce que nous faisons dans notre culte. Parce que, bon, on parle d'Adonai, El Shaddai, etc. et tout ça, ils ne comprennent rien du tout. Donc, ce qu'on va faire, on va garder notre culte tel qu'il est, on va le déplacer juste d'une heure. On va avoir notre petit culte entre nous. Et puis ensuite, on va faire un culte pour les gens qui ne connaissent pas l'Évangile. Un culte pour les gens qui ne connaissent pas l'Évangile. Bon, ça c'est une première. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va commencer par parler de leurs problèmes. Quels sont leurs besoins? Il dit, et c'est ça qu'il faut faire. Ce que nous devons faire, nous devons commencer par parler aux gens de leurs besoins, de leurs soucis, etc. Avant de leur parler de l'Évangile. Il faut qu'ils viennent quelque part où ils ne se sentent pas étrangers. Donc, on va utiliser la musique qu'ils connaissent. Comme ça, ils sont habitués au spectacle. On va leur donner du spectacle. Voilà ce que nous allons faire. Okay? Parce qu'il faut s'adapter. Le monde dit, il faut que la société a évolué. Les gens ont évolué, les mœurs ont évolué. Il faut que l'Église s'adapte. Si vous voulez toucher les gens, il faut vous adapter. Et ce pasteur disait que, eh bien, on a eu en une année plus de 300 visites. Alors, c'est pas surprenant. Plus de 300 visites. La conformité au siècle présent est le principal obstacle, n'est-ce pas, à l'adoration véritable. Le siècle présent met en avant les sentiments et l'émotion, n'est-ce pas? Tu dois te sentir bien, tu dois éprouver de bonnes sensations. C'est ce qu'on dit dans le monde. Hein. Quand on présente les informations, c'est pareil. c'est toujours les émotions. On fait tout pour que les émotions soient exacerbées, mais jamais l'intelligence. Vous avez déjà vu des reportages, ça ne dure jamais plus de quelques... une minute, quoi, ou une minute et demie, quand c'est calibré, hein. C'est jamais plus. Il ne faut pas que vous ayez le temps de réfléchir. Il passe de quelque chose qui est dramatique à du sport. D'accord ? Il y a une déstructuration volontaire. Et tout ça, il faut vous maintenir dans... Il y a de la musique. Il faut vous maintenir dans de l'émotion, dans des sentiments, etc. Et nous grandissons comme cela. Et nous arrivons à l'église et puis nous voulons des choses qui nous plaisent. Je veux me sentir bien à l'église. Il y a des gens avec qui je me sens bien, des gens avec qui je ne me sens pas bien. Donc je reste avec les gens avec qui je me sens bien. Ce qui est important, c'est moi, mes émotions et ce que je ressens. C'est l'esprit que nous impose le siècle présent. Ici. Le chrétien, dit Paul, ne doit pas se conformer à cela. Qu'est-ce que ça veut dire, se conformer ? Se conformer traduit le fait de se laisser façonner dans sa pensée et dans son comportement selon un modèle qui n'est pas le sien. C'est ça, se conformer. C'est-à-dire, on vous fait rentrer dans un moule, mais ce moule ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas... c'est pas vous. C'est ça, se conformer. Et donc, on conforme toujours une chose à une autre. Le sens de conformer, c'est ça, hein. On conforme quelque chose à une autre chose, à quelque chose qu'il n'est pas. Et donc, le croyant qui est une nouvelle créature, oui, et qui adopte les modes de pensée et du comportement du monde, il se fait passer pour ce qu'il n'est pas en réalité. Et il n'a pas à se laisser conformer parce que ça n'est pas sa nature. Donc, il doit résister à cela. C'est comme si Paul disait, n'acceptez pas que l'on vous fasse penser et agir d'une manière contraire à ce que vous êtes en réalité. Quand il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et l'apôtre Pierre disait, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Vous voyez, vous êtes des enfants obéissants, alors il ne faut pas vous conformer. Pourquoi ? Parce que vous êtes des enfants obéissants. C'est contre nature. Ne vous laissez pas modeler, façonner dans quelque chose que vous n'êtes pas. En réalité. Donc la résistance à l'esprit du siècle présent. Mais deuxièmement, l'apôtre Paul dit que cette résistance, ça c'est un aspect négatif, si vous voulez, de la réponse, c'est un aspect positif. Deuxièmement, il faut aussi se soumettre à la puissance transformatrice de l'Évangile. Se soumettre à la puissance transformatrice de l'Évangile. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, ici. Le mot transformé ici est un mot qui a donné, dans notre français, le mot métamorphose. Et vous pensez peut-être à la chenille qui se métamorphose en papillon. C'est un petit peu ça. Donc il évoque ici l'idée d'être changé dans une autre forme. Et on le retrouve utilisé à deux autres endroits dans la Bible, donc en Matthieu chapitre 17, où il est question de Jésus et où il est dit que Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, il les conduisit à l'écart sur une montagne, et il fut transfiguré devant eux. Et c'est ce même mot qui est utilisé. D'accord. Donc ce que Paul dit quand il dit « laissez-vous transformer », c'est comme s'il disait « laissez-vous transfigurer ». Vous allez apparaître tel que vous êtes. Quand Jésus est transfiguré, il fait quoi ? Donc, rappelez-vous, quand il a vécu sur la terre, il a vécu avec sa gloire qui était voilée, n'est-ce pas ? Et là, la Bible dit que son visage a brillé, ses vêtements sont devenus étincelants, et quelque part, hein, là, ils ont pu voir une partie de sa gloire, c'est-à-dire, il a laissé émaner ce qu'il est réellement, et cela a été visible. Donc quand nous sommes appelés à nous laisser transformer, nous sommes appelés à devenir ce que nous sommes, en réalité. C'est une transformation qui nous amène à devenir ce que nous sommes. Et puis l'autre endroit où le mot est employé, c'est en 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, l'apôtre Paul dit « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » Nous sommes transformés à la même image. On contemple le Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu nous transforme dans la même image, comme par le Seigneur et l'Esprit. Donc on peut conclure que la transformation qui est indiquée ici consiste en un changement qui est en accord avec ce que l'on est déjà ici. Le croyant est invité à se laisser transformer afin que la réalité de sa position en Christ puisse transparaître. Alors que le conformisme poussait à prendre une forme qui ne correspond pas à la réalité, la transformation consiste à se laisser transformer pour paraître tel que l'on est. Vous voyez, c'est ça la différence ici. Donc en quelque sorte, le chrétien est appelé à devenir ce qu'il est. C'est comme si l'apôtre Paul dit, devenez ce que vous êtes. Et la Bible, un peu partout, on lit cela dans l'Écriture. Vous êtes une nouvelle créature, alors soyez renouvelés. Vous êtes sanctifiés, alors soyez sanctifiés. Marchez dans la sanctification de jour en jour. Et donc, quels sont les agents de cette transformation? 2 Corinthiens 3, 18 nous le donne. Il dit, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés dans la même image. Donc, la transformation s'opère par la contemplation de la gloire de Christ. Et où est-ce que l'on contemple la gloire de Christ? À votre avis? Dans sa parole, dans l'Écriture. Et puis, il dit, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc, c'est l'action conjointe de l'Esprit de Dieu en nous et de la parole de Dieu qui nous transforme en l'image de Jésus-Christ. Et donc, c'est au travers de l'Écriture que je dois me laisser transformer. C'est en lisant l'Écriture, c'est en m'exposant à l'Écriture, c'est en me saturant de l'Écriture que je dois être transformé. Et puis en laissant l'Esprit de Dieu agir en moi. 2 Thessaloniciens 2, verset 13 dit, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, écoutez, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » On voit encore là l'action des deux agents, sanctification de l'Esprit Saint et la foi en la vérité, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Donc la parole et le Saint-Esprit agissent en même temps pour amener le chrétien de gloire en gloire, de sanctification en sanctification, de perfection en perfection. Mais notez aussi le lieu de cette transformation. Regardez où a lieu cette transformation. Il dit, laissez-vous transformer, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ah, comment est-ce que je suis transformé? C'est par le renouvellement de ma pensée, de ma mentalité. Ce qui est demandé ici, ce n'est pas un changement de comportement. Laissez-vous transformer et n'allez pas là. Laissez-vous transformer et n'allez pas là. Laissez-vous transformer et ne parlez pas comme ça. Laissez-vous transformer et ne... Non, c'est pas ça que l'apôtre Paul dit. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence et de la pensée et de la mentalité. Le comportement n'est que la manifestation de la mentalité. Et ça, c'est une chose que l'on doit absolument comprendre. Parce que souvent, nous pouvons être amenés à être tentés de changer nos comportements. Voilà, je faisais ça, je ne fais plus ça. Je faisais ça, je ne fais plus ça. Mais on s'expose quand même aux choses du monde. D'accord. Alors, je n'allais pas à l'église pendant... Maintenant, je vais... Allez, c'est d'ici, je vais au culte tous les dimanches. Et on peut être satisfait parce qu'on vient au culte tous les dimanches. Je n'allais pas à l'étude biblique le mardi, j'allais à l'étude biblique tous les mardis. Et on est satisfait. Voilà. Bon, maintenant, allez, ça y est, je ne vais plus au cinéma. Non. Oui, c'est pas que c'est mauvais, ces choses, mais c'est pas ça dont il est question ici. Il dit que si vous voulez offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, il faut résister à l'esprit du monde et vous laisser transformer dans votre intelligence, dans vos pensées, dans votre mentalité. Et regardez Éphésiens chapitre 4, verset 17. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Il dit, l'apôtre Paul dit, l'Écriture nous dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Donc ça, c'est vraiment à prendre très au sérieux. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon quoi? La vanité de leur pensée. Oui. Chers frères et sœurs, Personne ne marche autrement que par ce qu'il y a dans ses pensées. C'est un point qui est capital pour notre compréhension. Le comportement est la conséquence de la mentalité. Il dit, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Vous voyez, ça touche à l'intelligence en premier. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Et verset 19, ayant perdu tout sentiment, ça c'est la conséquence maintenant, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est-à-dire que lorsque je vois le comportement dépravé, il faut que je comprenne que, parce que la mentalité, elle est souillée. C'est ça que je dois dire. Regardez ce qu'il dit pour le chrétien. Il dit, mais vous, verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être quoi? Renouvelé comment? Dans l'esprit de quoi? De votre intelligence. C'est exactement ce qu'on lit dans Romains chapitre 12. Il dit, le chrétien, voilà, vous n'agissez pas comme ça, parce que vous avez appris à être renouvelé ici, dans l'esprit de votre intelligence. L'évangile s'adresse en premier lieu à notre intelligence. Et Dieu veut en premier lieu transformer notre mentalité. C'est-à-dire la manière avec laquelle nous allons considérer les choses, la manière avec laquelle nous allons voir le monde. Tout cela a besoin d'être transformé si nous voulons avoir un comportement tel que Dieu nous le demande et si nous voulons que notre corps soit offert en sacrifice à Dieu. La repentance, c'est quoi la repentance? Le mot pour repentance, c'est métanoïa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire changement de mentalité. Donc la repentance même commence par un changement de mentalité. Mais après, toute la vie continue par une transformation de la mentalité, de mes pensées surtout. Le monde agit pour imposer une vision avec l'esprit du siècle présent. Mais l'évangile agit aussi pour imposer une autre vision à notre mentalité. Ça, c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas de savoir si vous venez au temple, si vous participez à la Sainte-Cène, si vous chantez à la chorale, si vous prêchez, si vous priez, si vous venez à l'étude biblique, si vous distribuez, si vous vous sentez bien ici ou pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il s'agit de savoir si votre intelligence est renouvelée, continuellement renouvelée, par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Si l'Évangile ne façonne pas votre pensée, ne façonnera pas non plus votre comportement. Et vous ne pouvez pas rendre à Dieu un culte raisonnable qui lui soit agréable. Un auteur, Martin Lloyd-Jones, dit ceci, il dit, Jésus demande non la réformation de notre comportement, mais la transformation de notre caractère. On peut pas juger la vie chrétienne en disant, ah, moi je ne bois pas, donc je suis chrétien. Ah, il boit pas, il est chrétien. Il y a des gens qui font comme ça. Il dit, ah, cette sœur, elle n'a pas de boucle d'oreille, donc elle est chrétienne. On fait des fois, hein. Bon, ça veut rien dire. D'accord. Mais parfois, on est tellement omnibulé sur les apparences extérieures, sur les actes, que l'on finit par décrire le christianisme en termes d'actes. Le christianisme se traduit en termes de pensée renouvelée, transformée par la parole de Dieu. Et nous avons besoin de penser bibliquement. Nous avons besoin donc de nous laisser imprégner, de nous exposer. C'est pour ça, c'est frères et sœurs, que c'est important de s'exposer à l'écriture. Et de se demander, qu'est-ce que je fais le mardi soir, quand d'autres frères sont en train de s'exposer à l'écriture, est-ce que moi je suis devant le feuilleton préféré? Je suis exprès provocateur, mais il faut nous poser cette question. Parce que chaque fois que je m'expose devant ces choses, je m'expose à la pensée du siècle présent. dans tout, les informations, etc. Qu'est-ce que je fais? Je m'expose à la pensée du monde, du siècle présent. Et je m'expose peu, très peu, à l'agent qui pourra me transformer, c'est-à-dire la parole de Dieu et à la direction de l'Esprit. C'est ce dont nous avons besoin. Paul dit, vous voulez offrir vos corps comme un sacrifice vivant? Commencez par résister à la pensée du monde, en vous laissant, en vous soumettant à l'influence complète, totale de la parole de Dieu, pour que votre intelligence, votre pensée, votre manière de réfléchir, votre vision sur tout ce qui se passe dans le monde, soit modifiée par la parole de Dieu. Et puis, il dit aussi, et je termine avec cela, il montre le résultat que cela a. Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'une des questions les plus souvent posées est, comment puis-je connaître la volonté de Dieu? Alors, bien sûr, il y a des fois où la volonté de Dieu, elle est claire pour nous, elle est claire dans la parole. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il n'y a pas de question à poser là, hein. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens. Ça c'est la volonté de Dieu. D'accord ? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, il y a beaucoup d'endroits où c'est clair. Tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Mais la plupart du temps, on a besoin, il y a des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est avec cette personne que je dois me marier? C'est pas écrit dans la Bible. Oui, tu choisiras Christine plutôt que Françoise. Il n'y a pas de verset comme ça, malheureusement. Quelle maison je vais acheter? Où je vais habiter? Quel travail j'aurai, etc. Dois-je, une question qui m'a été posée il n'y a pas très longtemps, est-ce que le chrétien peut faire grève ou pas? C'est pas écrit dans la Bible comme ça. D'accord? Et comment est-ce qu'on fait pour connaître la volonté de Dieu? Eh bien, l'apôtre Paul dit ici qu'en fait, celui qui a l'esprit renouvelé, il est rendu capable par Dieu de discerner, de prouver même, d'éprouver, de tester la volonté de Dieu, et même d'expérimenter qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Parfois, on dit, moi, je sais que c'est la volonté de Dieu parce que j'ai la paix avec ça. Quelqu'un nous dit, non, tu ne dois pas épouser cette personne parce que... Il dit, mais moi, j'ai la paix. Okay. L'apôtre Paul ne dit pas qu'on connaît la volonté de Dieu lorsqu'on a la paix avec une situation. On peut avoir la paix et être dans le péché. Il dit, ce qui va vous donner de quoi discerner la volonté de Dieu, c'est vraiment de vous laisser modifier, transformer, métamorphoser dans votre mentalité. Et c'est ce dont nous avons besoin. Et vous allez pouvoir connaître la volonté de Dieu. Le critère de choix n'est pas le feeling, comment je me sens. Je me sens bien dans cette situation, et donc je vais décider que ça, c'est la volonté de Dieu pour moi. Après tout, j'ai rien, il n'y a pas de porte qui se ferme. Non! C'est pas comme ça que l'on doit discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se discerne par l'intelligence qui a été renouvelée, qui aime tellement le Seigneur qu'elle est capable, dit Paul ici, de savoir que ça lui plaît et ça lui plaît pas. Quand on a une relation profonde avec quelqu'un, on finit par savoir ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. N'est-ce pas? Parce qu'on a tellement passé de temps avec cette personne, connaît ses réactions à ceci, ses réactions à cela, etc. C'est pareil, quand on passe du temps avec le Seigneur, qu'on le connaît, que notre vie est transformée par sa parole et par l'Esprit Saint, eh bien, et qu'on l'aime, eh bien, on ne veut rien faire qui lui soit désagréable, eh bien, on finit par connaître sa volonté. On y marche et on la trouve agréable, bonne et parfaite. Le renouvellement de l'intelligence permet d'éprouver, de tester, d'approuver la volonté de Dieu. Celui qui est renouvelé, chers frères et sœurs, dans son intelligence, développe donc cette capacité à connaître et à discerner ce que Dieu veut pour lui. Donc, l'apôtre Paul dit, vous voulez offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Attention au monde. Et je voudrais dire en conclusion Le monde est beaucoup plus dangereux que nous le croyons. Pour nous, le croyant. Pour nous, le croyant. Et demandons-nous, dans notre cœur, est-ce que je m'expose davantage à l'esprit du monde qu'à la pensée de Dieu? Et demandons au Seigneur de nous montrer en quoi est-ce que je m'expose à la pensée du monde. C'est important. C'est crucial pour la vie chrétienne. L'apôtre Paul dit ici, c'est ça que ça veut dire d'offrir son corps comme un sacrifice vivant. C'est un culte raisonnable, logique, il dit. Quand on regarde les compassions de Dieu, il est logique que l'on offre son corps en sacrifice vivant, que l'on vive pour Dieu, comme on l'a chanté. Mais pour le faire, il faut se laisser modeler par Dieu. Il faut se laisser modeler par Dieu. Nous pouvons nous soumettre à cela ou résister à cela. Mais celui qui aime le monde, il n'aime pas Dieu, dit la Bible. Et donc si les pensées, les valeurs du monde sont telles que je ne peux pas me laisser modeler dans mon intelligence par Dieu, c'est que l'amour du Père n'est point en moi. C'est ce que la Bible dit. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est 1 Jean qui dit ça. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est une question importante pour nous ce matin. Est-ce que nous voulons vraiment offrir nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu? Eh bien, résistons à l'esprit du monde par tous les moyens qui soient, en nous laissant transformer par dans notre intelligence, par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et nous allons goûter, c'est une promesse, à la joie de vivre dans la volonté de Dieu. Et même mesurer combien elle est bonne, combien elle est agréable et combien elle est parfaite pour nous. Que le Seigneur nous aide. Prions. Notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole et te demandons de nous conduire encore dans nos pensées et de nous donner par ton esprit d'approfondir encore cette méditation, que nous n'allions pas nous jeter dans les bras du monde en sortant ici, Seigneur, mais que nous continuions à nous exposer à toi, à ton influence, dans les échanges que nous pouvons avoir les uns avec les autres, pour la gloire de ton nom. Amen.